Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 11 avril 2023, direct de Washington. Jean-Roger Billon pour commencer les titres. En Turquie, un homme soupçonné du meurtre fin mars d'une étudiante gabonaise a été placé lundi en détention. Au Niger, 5 soldats tués par des hommes armés alors qu'ils assuraient la sécurité d'un convoi d'orpailleurs dans la zone désertique d'Arlit. En Éthiopie, des restrictions ont été imposées lundi dans la région de l'Amara après des manifestations contre le gouvernement. Ici aux États-Unis, le Pentagone estime que la fuite de documents classifiés américains pose un risque grave de sécurité. Nouvelle fusillade aux États-Unis, un Américain tue 5 personnes dans la banque du Kentucky où il travaillait. Le président américain Joe Biden est attendu ce soir en Irlande du Nord pour les 25 ans de l'accord de paix ayant mis fin à 3 décennies de violence. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. En Turquie, un homme soupçonné du meurtre fin mars d'une étudiante gabonaise a été placé hier en détention. C'est ce que rapportent les médias turcs. Les détails avec Nani Talani.
Le suspect, Dursan A, clame son innocence et affirme n'avoir fait que transporter Jana Danis Dinabongo Ibwanga, l'étudiante gabonaise, dans son véhicule peu avant sa mort, d'après l'agence de presse Deisha. Des images de vidéosurveillance exploitées ces derniers jours par les enquêteurs ont permis d'établir que la jeune gabonaise, surnommée Dina, était descendue de la voiture du suspect avant de se diriger vers la rivière où elle a été retrouvée morte quelques heures plus tard. Selon ces mêmes images, Dursan A serait descendu de son véhicule peu après avant de se diriger dans la même direction. Le corps de Jana Danis Dinabongo Ibwanga, âgée de 17 ans, a été retrouvé le 26 mars dans une rivière non loin de l'université de Karabuk où elle étudiait le génie mécanique. Une autopsie avait dans un premier temps attribué le décès de la jeune femme à une mort naturelle par noyade malgré la présence de petites ecchymoses au niveau du cou et des reins. L'ambassade du Gabon à Ankara avait demandé une contre-expertise. Un bref rassemblement auquel ont participé une cinquantaine de personnes s'est tenu lundi soir à Istanbul pour demander justice pour Dina.
Dans le nord du Niger, 5 soldats ont été tués dimanche par des hommes armés alors qu'ils assuraient la sécurité d'un convoi d'orpailleurs dans la zone désertique d'Arlit, près de l'Algérie. Le point avec Michel Joseph.
Selon une source sécuritaire, des hommes armés qui s'étaient mêlés au convoi ont d'abord ouvert le feu sur les militaires qui l'escortaient et ces derniers les ont poursuivis et sont tombés dans une embuscade qui a fait 5 morts. Le convoi se dirigeait vers la ville d'Arlit après avoir quitté les sites aurifères artisanaux de Tchibarakaten près de la frontière algérienne. Un rescapé a confirmé au journal en ligne Aïr Info, basé à Agadez, que les assaillants lourdement armés ont ouvert le feu sur le convoi puis les militaires sont tombés dans une embuscade. Le 12 avril l'an dernier, 4 soldats de la garde nationale ont été tués par des hommes armés non identifiés dans le Djado, une zone aurifère dans la région d'Agadez. Vaste étendue désertique, les zones nigériennes proches de la Libye et de l'Algérie sont des corridors pour le trafic de migrants, d'armes et de drogue, notamment vers l'Europe.
Au Mali, le journaliste Aliou Touré, qui était porté disparu depuis jeudi, a été retrouvé et rentré chez lui, sain et sauf, à Bamako. C'est ce qu'a annoncé dimanche soir la cellule de crise mise en place par ses confrères après la disparition du directeur de publication du journal privé Le Démocrate. Les circonstances dans lesquelles M. Touré a été retrouvé n'ont pas été précisées. La cellule de crise a prévu une conférence de presse ce mardi. Le jour de sa disparition, Aliou Touré avait participé à l'animation d'un point de presse pour réclamer la libération de son confrère Mohamed Youssouf Batili, dit Razbat. Cet animateur connu a été inculpé et écroué le 13 mars après avoir déclaré que l'ex-premier ministre Soumelou Boubey Maïga, mort en détention il y a 1 an sous la junte, avait été assassiné. En Algérie, un projet de loi sur l'information renforçant l'encadrement du travail des journalistes a été examiné lundi par la Chambre haute du Parlement en vue de son adoption. Parmi les principales dispositions du texte figure notamment une interdiction permission aux médias algériens de bénéficier de tout financement ou aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sous peine de sanctions pénales prévues par la loi. Une amende pouvant aller jusqu'à près de 14 000 euros est également prévue. En Éthiopie, les restrictions de circulation nocturne et de réunion ont été imposées hier à Gondar, la plus grande ville de la région de l'Amara, au lendemain de manifestations contre le démantèlement de forces militaires régionales. Les précisions de John Lindon.
Selon un communiqué publié par les autorités municipales, ces restrictions sont édictées par le poste de commandement de la ville, laissant supposer que la sécurité de Gondar est confiée à l'armée fédérale. Il est interdit aux tricycles, utilisés comme taxi, de circuler de 20h à 6h. Les bars et discothèques doivent fermer à 21h. Toute grève est prohibée et toute réunion doit être signalée aux autorités. Il est interdit de transporter une arme ou tout objet pouvant en faire office, couteau, machette ou barre de fer. Il est aussi interdit de détonner des pétards et feux d'artifice ou de porter indûment tout vêtement militaire. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé avoir entamé le processus de réaffectation dans l'armée fédérale ou la police des membres des forces militaires progressivement mises sur pied depuis une quinzaine d'années par certains États de la fédération. Appelées forces spéciales, ces unités militaires ont été jusqu'ici tolérées.
Le gouvernement comorien a demandé hier à la France de renoncer à une prochaine opération d'expulsion, de destruction de logements illégaux et d'arrestation prévue en principe à Mayotte, département français de l'océan Indien, confronté à une délinquance galopante sur fond de crise migratoire. L'opération baptisée Wambushu, reprise en maorais et conçue par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a été validée en février par le président français Emmanuel Macron, selon une source proche du dossier. Elle devrait commencer le 20 avril, date de la fin du Ramadan. Les migrants habitant les bidonvilles visés sont tous ou presque originaires des Comores.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'apparente fuite de documents classifiés liés à l'Ukraine pose un risque très grave pour la sécurité nationale. C'est ce qu'a estimé hier lundi le Pentagone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le fait que ces documents circulent en ligne représente un risque très grave pour la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation, a indiqué Chris Meagher, un porte-parole du ministère américain de la Défense. Il a ajouté que le Pentagone continue d'enquêter sur la façon dont cela est arrivé. Un flot régulier de photographies, de documents classifiés a été découvert sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres sites ces derniers jours. Le porte-parole du Pentagone n'a pas voulu se prononcer sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaille à déterminer leur nature. Des photos semblent montrer des documents au format semblable à celui qui est utilisé pour fournir des mises à jour quotidiennes à nos hauts responsables des opérations liées à l'Ukraine et la Russie, et d'autres mises à jour de renseignements soutient le porte-parole du Pentagone, qui précise que certaines semblent avoir été modifiées.
Un jeune Américain de 25 ans, Connor Sturgeon, a ouvert le feu lundi dans la banque qu'il employait à Louisville, principale ville du Kentucky, tuant 5 personnes et faisant au moins 8 blessés tout en diffusant des images de l'attaque en direct sur Internet. Avant d'être abattu par la police, on ignore le mobile de son acte, mais selon CNN, il venait d'être informé qu'il serait licencié et avait laissé une lettre pour ses proches annonçant qu'il allait ouvrir le feu dans les locaux de la banque. Le tireur était en live streaming durant l'attaque, selon la chef de la police de la localité. Une porte-parole de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise était en contact avec les forces de l'ordre et a rapidement retiré le live stream de cet événement tragique hier matin. Justin Jones, un élu démocrate noir du Tennessee, exclu pour avoir manifesté au sein du Parlement local en faveur d'un meilleur encadrement des armes à feu, regagne temporairement son siège après un vote lundi du Conseil de Nashville avant l'organisation d'une élection spéciale. Jones avait été exclu de l'Assemblée comme un autre collègue africain-américain pour avoir rejoint une semaine plus tôt des centaines de manifestants dans l'enceinte du Parlement. Il réclamait une régulation plus stricte des armes à feu après une tuerie dans une école chrétienne de Nashville. Une troisième élue démocrate, Gloria Johnson, blanche et menacée d'exclusion pour les mêmes raisons, était parvenue à garder son siège plongeant l'Amérique dans une féroce bataille politique entre débats sur les armes et accusations de racisme. Le président Joe Biden était monté au créneau, invitant les trois élus à la Maison-Blanche. Et puis le président américain Joe Biden est attendu ce soir en Irlande du Nord à l'occasion du 25e anniversaire de l'accord de paix qui a mis fin à trois décennies de violences qui ont fait 3500 morts entre unionistes, surtout protestants et républicains en majorité catholique, avec l'implication de l'armée britannique. Fier de ses origines irlandaises, M. Biden se rendra dans la semaine sur les terres de ses ancêtres en République d'Irlande, mais il entame sa visite dans la province britannique au passé sanglant, signe de l'attention qu'il porte au processus de paix. Place maintenant à la Minute Éco avec Nani Talani.
Depuis 2022, la Banque mondiale a prêté 315 millions de dollars au Tchad, au Ghana et à la Sierra Leone pour lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience de leur système alimentaire. Pour sa part, l'Égypte a reçu 500 millions de dollars pour que les ménages pauvres et vulnérables aient un accès ininterrompu au pain et que le pays renforce sa résilience aux crises alimentaires et ses réformes qui contribueront à améliorer les résultats nutritionnels. Au Zimbabwe, la nouvelle unité de production d'électricité au charbon de 300 MW a commencé à alimenter le réseau national en électricité, annonce la Compagnie d'électricité nationale. Pour atténuer les délestages prolongés, Harare a grandi aussi sa centrale thermique de Wangé de 920 MW en ajoutant deux unités de 300 MW pour 1,4 milliard de dollars, dont 85% proviennent de la Chine. Pour terminer, la croissance économique et le développement de l'Eswatini sont entravés par les disparités fondées sur le sexe, dont l'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux services financiers, à la propriété des actifs et au marché du travail, qui empêchent les femmes de réaliser leur potentiel économique, prévient le FMI. Il encourage Mbabane à remédier à ces disparités et permettre aux femmes de participer pleinement aux activités économiques pour que le secteur privé soit le moteur de la croissance économique.
Merci Nanit. L'espoir à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour à tous.
Basketball pour commencer, les matchs de barrage de la NBA débutent ce mardi et on revisite les modes d'accession aux playoffs.
Oui, Atlanta fait face à Miami et Minnesota défie les Los Angeles Lakers. Pour rappel, les six premières franchises à l'Est comme à l'Ouest sont automatiquement qualifiées pour les playoffs. Elles sont pourvues du statut de tête de série de 1 à 6, déterminées par leur classement à l'issue du championnat. Il reste donc à déterminer les quatre clubs qui viendront compléter la liste des qualifiés issus des barrages baptisés play-in depuis leur instauration en 2020. Pour ce faire, dans chaque conférence, le septième reçoit le huitième. Le vainqueur sera qualifié avec le statut de tête de série numéro 7. Le vaincu aura une seconde chance. Il recevra le gagnant de l'autre match opposant, le neuvième au dixième, sachant que le perdant sera le premier éliminé. Le vainqueur de cette ultime rencontre des play-in sera qualifié pour les play-offs avec le statut de tête de série numéro 8. Les huit équipes engagées en play-off et les oppositions seront alors connues.
Justement, fréquentation record des parquets en NBA cette année.
La saison régulière 2022-2023 a attiré dans les salles plus de 22 234 000 spectateurs aux États-Unis et au Canada. C'est un nouveau record de fréquentation selon la Ligue nord-américaine de basketball. Le précédent record, qui était de plus de 22 124 000 spectateurs, datait de la saison 2017-2018. Conséquence, la fréquentation moyenne a dépassé pour la première fois le seuil des 18 000 spectateurs par match et le taux de remplissage a atteint avec 97% un niveau inédit. La NBA a précisé que 791 matchs se sont déroulés à guichet fermé, constituant également un nouveau record contre 760 matchs en 2018-2019.
Football avec les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez reçoit le Bayern Munich, premier sommet du printemps européen. Avant de pouvoir rêver, soulever sa première coupe aux grandes oreilles avec City, Pep Guardiola devra passer l'obstacle du Bayern Munich, du nouveau coach et rival de l'Espagnol Thomas Tuchel. Les Bavarois seront privés de leur avant-centre camerounais Eric Maxim Choupo-Moting. L'occasion peut être pour le Sénégalais Sadio Mané d'être titularisé, lui qui ne débute pas très souvent les matchs depuis son retour de blessure. Dans l'autre quart de finale de ce mardi, le Benfica fera face à l'Inter de Milan du portier camerounais André Onana.
page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les États-Unis prévoient une aide à long terme pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo afin de contrer la menace grandissante des violences djihadistes qui s'étendent du Sahel aux régions côtières d'Afrique de l'Ouest. Des responsables du département d'État ont souligné l'importance d'un soutien occidental pour empêcher la progression des mercenaires russes Wagner déployés notamment au Mali, dit-on. La vice-présidente américaine Kamala Harris a promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour renforcer la résilience des régions côtières d'Afrique de l'Ouest lors de sa visite au Ghana au mois de mars. Eric Manirakiza a joint à Nouakchott Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara.
Je pense que cette proposition, ce programme de politique américaine est le bienvenu. Toute aide dans la lutte contre le terrorisme est une bonne chose. Mais je dois préciser que les Américains avaient fait en 2002-2003 un excellent programme qui s'appelle le Pan-Sahel Initiative. Et malheureusement, ce programme, ils l'ont arrêté très tôt. Et il faudrait donc que celui qu'il propose pour cette région qui en a besoin et qui a le cadre légal et sécuritaire adéquat pour réussir, il faut qu'il soit mis en place avec consistance, avec continuité et en coopération avec le gouvernement de la région. Je pense que c'est une excellente chose.
Pour vous, cette aide devrait s'inscrire donc dans la continuité de ce programme qui n'a pas continué. Mais au niveau de la mise en œuvre, est-ce que cette aide à elle seule suffit pour régler cette question en vue justement de prévenir la percée des djihadistes dans ces pays?
Naturellement, non. L'assistance doit être, oui, militaire, sécuritaire, mais elle doit être aussi économique. Et elle doit être surtout politique. Plus d'ouverture dans les pays, plus de coopération. Et je pense que les gouvernements cités sont disposés, mais il faut les soutenir pour plus de discussions avec les différents segments de la population, les différents partis politiques et les hommes d'affaires, de même que les syndicats. Il faut un complément, c'est un ensemble qu'il faut faire, et de faire de façon régionale et encore mieux.
Cette aide vise aussi à stopper la progression de Wagner dans la région. Est-ce que vous pensez que Wagner ne va pas s'étendre sur ces régions de l'Afrique de l'Ouest, Wagner qui est déjà présent notamment au Mali?
Wagner, ce sont des forces de sécurité privées ou autres, mais tout le monde sait qu'il y a la Russie derrière. Il y a des gouvernements, deux ou trois, qui les ont acceptés dans la région. Il ne faut pas, à mon avis, en faire une obsession. Ce qui est important, c'est que des pays qui sont amis, que ce soit le Niger, que ce soit le Tchad, la Mauritanie, mais surtout les trois pays que vous avez mentionnés, Côte d'Ivoire, Togo et Ghana, puissent bénéficier d'un appui pour la sécurité dans leur pays, pas pour lutter contre Wagner. Donc, à force d'en parler, on donne à Wagner une puissance et une publicité que peut-être est utile pour eux. Mais revenir à la guerre froide dans la région, à mon avis, peut être contre-productif et je le redécommanderai fortement.
Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ex-rébellion Touareg estime qu'il n'y a aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. La veille, elle a dénoncé le survol de la ville du Nord par des avions de l'armée. Une montée de tension qui a poussé le groupe de médiateurs à faire des propositions concrètes visant à relancer l'accord pour la paix. L'accord d'Alger est-il menacé et faut-il craindre une reprise des hostilités? Quelle solution pour une paix définitive dans le nord du Mali? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Bénin, le bâtonnier Jacques Migan est au cœur de la polémique pour avoir déclaré sur une chaîne de télévision locale que les Béninois souhaiteraient un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Des propos qui ont entraîné une vague de réactions au niveau de la classe politique et de la population. Certains auraient voulu du bâtonnier une position tranchée sur la libération des détenus politiques, dont les plus célèbres sont Rekia Madougou et le constitutionnaliste Joël Aïvo. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
La question sur le nombre de mandats du président de la République a été remise au goût du jour par le bâtonnier Jacques Migan. Si au sein de la classe politique, on promet des actions fortes pour décourager toute tentative au sein de la population, les avis restent partagés. Pour certains, un chef d'État doit respecter la parole donnée, mais pour d'autres, un troisième mandat pourrait permettre à Patrice Talon d'aller au bout de ses rêves pour le Bénin.
On ne peut pas dire que parce que j'ai fait des gratte-ciel, parce que j'ai donné à manger à cause de ça, je dois continuer mon mandat maintenant. C'est contre la Constitution. Quand toi-même tu voles la Constitution, ça veut dire que tu ne respectes pas la loi. L'exécutif, c'est une continuité. Donc, il faudrait que quelqu'un continue le travail. Donc, je ne pense pas que ça se limite à une seule personne.
Comment
je
pense qu'on peut lui donner encore une autre chance de pouvoir continuer ses travaux, les finir? C'est vrai que tout est dû, mais au moins on voit les effets, on voit ce qu'il fait.
Moi, je préfère qu'après les 10 ans du président Talon, qu'il laisse carrément le pouvoir pour pouvoir permettre et à d'autres Béninois de pouvoir diriger cette nation. Moi, je n'aimerais pas qu'il revienne faire un troisième mandat.
Invité d'honneur de la deuxième édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, tenu à Cotonou le 10 juillet 2021, Patrice Talon a été clair sur sa détermination à laisser le pouvoir en 2026.
L'évidence est claire. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre.
Mes prédécesseurs l'ont montré. J'ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire comme nous. Donc au Bénin, ici, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le troisième dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois.
Pendant que le débat attise les passions, l'opposition travaille à honorer l'une de ses promesses électorales liées à la libération des détenus politiques et au retour des exilés. Nourinois Tchadi est le président du groupe parlementaire Les Démocrates.
Conformément à l'article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à nos jours.
Le président du parti Restaurer l'espoir est du même avis, Candide Azanaï.
Je voudrais réitérer de côté notre exigence de la libération sans délai et sans condition de tous les détenus politiques. Et de l'autre, la levée de tous les obstacles susceptibles d'entraver le retour apaisé de tous les exilés politiques.
De Cotonou, Sénéclade, pour VOA Africa.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
À Tripoli, en Libye, des salles de jeux vidéo ultramodernes voient de plus en plus le jour. Isolées par le règne de Muammar Kadhafi, puis par une décennie de chaos, des Libyens passionnés de e-sport commencent à s'organiser en communauté pour vivre leur passion. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
En pleine nuit de Ramadan, dans un immeuble de Tajoura, dans la banlieue de Tripoli, des adolescents, écouteurs vissés sur les oreilles, ont le regard rivé sur leurs écrans incurvés, dernier cri. Assis derrière un volant, ce jeune fait rouler en trombe une voiture de course. D'autres sont immergés dans des parcours en réalité virtuelle, ce type d'espace n'a rien d'ordinaire en Libye. Sofiane Matous, superviseur de la salle de jeu.
Il y a 5 ans, il n'y avait aucun centre de jeu en Libye, pas un seul tournoi, rien. Mais au cours des 2 dernières années, nous avons commencé à organiser des tournois. Aujourd'hui, tous les centres en Libye organisent des tournois avec des prix à la clé.
L'investissement dans les technologies et les divertissements a été ralenti en Libye par plus de 40 ans de règne de Muammar Kadhafi, puis par les affrontements entre camps rivaux depuis 2011. Le long isolement des joueurs explique la forte demande actuelle. Les adolescents peuvent enfin jouer ensemble et s'éloigner de certains vices. Sofiane Matous.
Cette salle rassemble des jeunes qui souhaitent jouer, participer à des tournois de jeux, changer d'air au lieu de traîner dans les rues.
Une demi-douzaine de salles modernes ont vu le jour à Tripoli, sans compter d'autres villes comme Benghazi dans l'Est. Une fédération d'e-sport a même été lancée en 2018 et des tournois sont de plus en plus fréquents. Confortablement installés sur des poufs ou juchés sur des tabourets, des joueurs bruyants s'affrontent par manettes interposées dans des matchs de football ou des combats épiques. Résident en Turquie pour ses études, Youssef Younsi avait l'habitude des petites salles de Tripoli, mais il n'avait jamais vu en Libye des espaces aussi modernes.
J'ai l'habitude de jouer dans des centres, mais c'est la première fois que j'en vois un pareil. Je ne m'attendais pas à trouver des personnes prêtes à fournir de tels services disponibles dans d'autres pays.
Karim Al-Zayani est aussi un étudiant séduit par ces salles de jeux vidéo ultra modernes.
C'est une excellente idée et un pas en avant pour le pays. Nous espérons que cela se poursuivra en Libye, car cela contribuera, si Dieu le veut, à éradiquer le phénomène des comportements répréhensibles chez les jeunes au sein de la société.
Face à certaines voix critiques, les amoureux de e-sport répondent que les jeux vidéo ne détruisent pas la jeunesse libyenne, mais l'éloignent plutôt de l'ennui.
Après la récente comparution à New York de l'ancien président Donald Trump, inculpé de 34 chefs d'accusation, ses avocats ont commencé à travailler sur sa défense. Ce n'est que la première des multiples enquêtes auxquelles Trump est confronté et qui, selon certains experts, pourrait avoir des conséquences très graves pour lui et son avenir politique. Véronica Balderas-Iglesias s'est penchée sur le sujet. Le récit est de Dili Dico.
Comment l'ancien président Donald Trump organisera-t-il sa défense après avoir été inculpé dans une affaire de pot de vin et entendu les accusations à son encontre dans un tribunal de New York ? Cette information, son avocat James Trustee n'a pas souhaité la partager lors de son interview dans l'émission This Week sur ABC.
Toute personne ciblée par des enquêteurs fédéraux ou des procureurs new-yorkais se replie un peu sur elle-même et se dit que c'est une très mauvaise nouvelle. Je pense que c'est terrible, mais il s'est rapidement tourné vers une vue d'ensemble, le côté historique, et je pense que c'est un mauvais moment pour ce pays.
Monsieur Trump est accusé d'avoir falsifié des documents officiels de l'État de New York pour dissimuler le fait qu'il aurait ordonné le versement de pots de vin à une actrice pornographique qui détenait des informations compromettantes à son sujet juste avant l'élection présidentielle de 2016. Il a plaidé non coupable. L'affaire, chapeautée par le procureur Alvin Bragg, n'a aucun fondement aux yeux de l'ancien procureur général Bill Barr.
La falsification de documents commerciaux est un délit si elle fait partie d'un système frauduleux. Et je ne vois nulle part spécifié ici en quoi consistait exactement la fraude.
Monsieur Barr a cependant ajouté qu'une enquête fédérale plus grave dont fait l'objet Monsieur Trump est celle pour possession de documents classifiés.
Il y a toute une série d'autres problèmes liés à la prescription. Le fait qu'il n'ait pas précisé exactement quel était l'autre délit commis et qu'est-ce qui fait de cette affaire un crime.
Actuellement, Trump n'a pas de documents classifiés en sa possession, selon son avocat, James Trustee.
Nous avons fait preuve de professionnalisme et d'éthique et nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le respect de la citation à comparaître.
Si M. Trump reste inflexible, des amendes substantielles, voire des peines de prison, ne sont pas à exclure dans d'autres affaires, notamment des tentatives présumées visant à renverser le résultat des élections de 2020 et à attaquer le Congrès des États-Unis le 6 janvier 2021. Claire Finkelstein, professeure de droit, nous en dit plus.
Une conspiration séditieuse ou une insurrection au titre du 14e amendement, section 3, signifierait qu'il ne pourrait plus occuper de fonctions fédérales.
Les experts juridiques affirment qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'une éventuelle condamnation soit prononcée dans le cadre de l'une de ces enquêtes avant l'élection de 2024. Monsieur Trump, qui a perdu les élections de 2020, est à nouveau candidat à la présidence.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon, à la mise en onde, Fatouma Kalala Limassi. Rendez-vous sur notre site internet.